Grâce à l'application Totem, emportez votre radio régionale partout avec vous. Totem, vous divertir, vous informer, vous rendre service. Totem, tout le monde l'écoute dans la région. Bonne soirée sur Totem.
Il est 20h.
Toute l'info sur Totem avec la rédaction.
Bonsoir à tous. 560 000 euros, c'est le montant du préjudice d'un braquage spectaculaire qui s'est déroulé ce matin à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Une information de nos confrères de BFM TV. Un fourgon qui transportait des bijoux a été attaqué par deux voitures béliers. Quatre hommes cagoulés, habillés en noir et armés, ont extrait les deux chauffeurs avant de mettre le feu au fourgon. Les voleurs ont ensuite pris la fuite avec le butin. Ils le sont toujours activement recherchés. Une enquête est en cours. La mobilisation pro-palestinienne dans les universités françaises fait tache d'huile. Le campus de Sciences Po à Menton, dans les Alpes-Maritimes, est désormais inaccessible jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Par sécurité, le site de Sciences Po Toulouse a lui aussi fermé ses portes. D'autres étudiants se sont encore mobilisés du côté de Lyon, de Grenoble ou encore de Dijon. Sur le front diplomatique, l'appel d'Anthony Blinken au Hamas, le secrétaire d'État américain, demande au mouvement palestinien d'accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël. Concrètement, cette proposition prévoit un cessez-le-feu de 40 jours en échange de la libération d'otages retenus à Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois promis que l'armée israélienne entrerait dans Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza, qu'un accord de trêve soit conclu ou non avec le Hamas. Il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales, démarche nécessaire pour pouvoir voter le 9 juin prochain lors des élections européennes. La date limite est fixée à demain en ligne et le 3 mai, c'est-à-dire vendredi en mairie. Pour ceux qui ne seront pas présents pour cette échéance, vous pouvez faire votre demande de procuration sur le site maprocuration.gouv.fr ou bien vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Et puis ça y est, il est enfin de retour au Louvre. La liberté, guidons le peuple. Ce tableau d'Eugène Delacroix peint en 1830 est retourné aujourd'hui sur le mur de sa salle d'exposition après une restauration qui aura duré près de 6 mois. L'œuvre n'avait pas connu de coup de neuf depuis 75 ans. Excellente soirée à tous à notre écoute.
La météo Totem.
Demain, toute la journée, le ciel sera bien nuageux avec de petites pluies ou averses. L'après-midi, quelques éclaircies seront toutefois possibles. Il y aura du vent, les rafales pourront atteindre par endroits les 55 km/h. Du côté des températures maximales, elles vont baisser. 10 degrés à Rodez, 11 pour Aurillac, 12 à Albi, Montauban, Cahors, Sarlat et Mende, 13 pour Lodève, Brioude, Issoire et Tulle et 14 degrés du côté d'Alès.
Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Nouveau club sang et or avec Jean-Charles Virlogeux, bonsoir.
Bonsoir.
On va parler de la fin de saison du Rodez Aveyron Football qui a revu ses objectifs à la hausse avec cette saison que l'on va qualifier d'historique. Rodez dans le top 5, précisément 4e de Ligue 2 au moment où on se parle. Dans l'effectif de Rodez, Didier Santini qui a utilisé 4 gardiens, Lionel Mpassi, Sébastien Cibois, Enzo Crombé et donc Ewen Jaouin qui est notre invité ce soir. Bonjour Ewen.
Bonjour à vous.
On va revenir évidemment sur les belles perfs, la série de 3 matchs sans défaite et même mieux, 3 victoires contre Auxerre, Paris FC et Concarneau. Un peu notre porte-bonheur finalement puisque vous avez un taux de réussite de 100% pour l'instant avec Rodez. Avant de commencer ce club sans ailleurs, Jean-Charles, petite annonce à faire à tout le monde. Si vous voulez vos invitations pour un match d'exception, un match qui s'annonce à guichet fermé face à Annecy, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la radio. La possibilité pour vous de gagner 2 invitations pour assister justement à cette rencontre qui aura lieu vendredi soir à 20h. Rendez-vous sur la page Facebook de la radio Jean-Charles.
Ouais, match qui pourrait être décisif, on aura l'occasion d'y revenir. On va parler d'abord de ce match contre Concarneau. Ewen, c'est un match qui a démarré un peu piano, on va dire. On a senti les héros un peu fatigués peut-être, vous diriez, après les deux perfs qui ont été très énergivores quand même. Deux matchs où il a fallu beaucoup donner contre Paris et contre Auxerre.
Ouais, fatigué, je sais pas du tout. Peut-être que ça a joué aussi le fait d'enchaîner un troisième match en une semaine. Mais c'est vrai qu'on a manqué beaucoup d'intensité dans la première mi-temps. Après, on s'est fait réveiller à la mi-temps par le coach un peu.
Il paraît. Mais il aime bien Il a bien gueulé à la fin.
C'était pas un habitué du fait, puisque Ewan est arrivé il y a quelques semaines maintenant en Aveyron. Il a eu l'habitude, on va dire, en début de saison, de réveiller un peu les troupes comme ça. Je sais pas si on vous en a parlé, mais apparemment, il a des habitudes à la mi-temps. Quand ça va mal, il a des habitudes et sa voix porte bien, on va dire.
Elle porte bien, c'est vrai. Après, je découvre, mais non, il a réveillé un peu tout le monde à la mi-temps.
Alors, la fatigue, en tout cas, pour votre coach, eh ben, ce n'était pas une excuse valable, écoutez.
Oui, ça a été une surprise. Non, je pense pas. Il y avait 5 changements par rapport au dernier match. Je pense que c'est plus par rapport à l'équipe adverse qui nous bloquait, qui empêchait un peu de prendre de vitesse. C'était un faux rythme. Et nous, pour passer de gauche à droite, on mettait 15-20 secondes. C'était un peu lent. C'était très, très lent, quoi. On mettait un peu plus de rythme. Et puis, je pense qu'ils étaient dans l'obligation de gagner. Donc, en jouant un peu plus haut, ça nous a commencé à se créer pas mal d'espace et beaucoup d'opportunités. Après, il faut continuer à aller de l'avant. Je pense que la première mi-temps, pour nous, et comme je l'ai dit, je pense que mon gardien a couru plus que tous mes joueurs. Et c'est pas notre football. Mais c'est comme ça. Des fois, ça peut arriver. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours ces enjeux de match qui sont importants contre une équipe qui était pas évidente à jouer et qui a aussi joué sa survie aujourd'hui. Et puis, nous aussi, on joue quelque chose. Donc, c'est toujours intéressant. Mais on n'a pas pris le match par le bon bout. On a été vraiment tranquille. Très tranquille.
On aura une question, tiens, d'ailleurs, sur les efforts des gardiens. Il exagère un peu, quand même, quand il dit que vous avez plus couru que les autres.
Oui, je pense.
Un petit peu.
Je fais beaucoup moins de sprints que les joueurs, mais non. Après, je suis actif quand même, mais je fais beaucoup moins d'efforts que les joueurs.
Oui, il y a quand même des stats qui étaient sortis il y a quelques mois, quelques années de cela, comme quoi les gardiens bougeaient quand même s'ils étaient évidemment dans leur surface de réparation, mais ils étaient quand même actifs.
Ouais.
Je sais pas si on calcule les kilomètres parcourus par un gardien.
Si, ça se calcule.
Ah ouais. Il y a les stats affichées dans le vestiaire.
Les data, ouais.
Et je crois que sur les 3 derniers matchs, j'ai fait un peu plus de 6 kilomètres.
Ah, quand même.
Lors de chaque match, on est d'accord.
Ouais.
Ah ouais, on n'a pas l'impression, hein, franchement. 6 kilomètres, c'est la moitié d'un bon joueur, on va dire, d'un joueur actif, quoi.
Ouais,
parce que ça peut aller jusqu'à 12-13 kilomètres parfois sur certaines rencontres, notamment pour les milieux de terrain. Revenons-en à nos moutons, avec notamment le match face à Concarneau. Bon, c'est effectivement Concarneau qui s'est procuré la plus belle occasion, en tout cas la première. Un oubli de marquage sur bas de la part de la défense, vous diriez?
Oh, je me rappelle plus à quelle situation.
En première mi-temps, il est seul, il se fait un peu la malle, on va dire, il a un peu oublié. Avant justement votre intervention dans les pieds de Rodriguez, dans votre surface de réparation, il y a une occasion de Papi Plouba, le meilleur buteur de Concarneau. Ouais. Ça vous rappelle aucun souvenir?
Ça l'a pas traumatisé.
C'est peut-être finalement une bonne nouvelle hein, dans ces cas-là.
Ouais, on aurait pensé que ça vous avait plus fait peur que ça.
Non, franchement, je m'en souviens.
On essaiera de la retrouver.
Je m'en souviens même pas du tout. Mais. C'est un centre où il se retrouve tout seul dans la...
Bon, il faudrait revoir le...
Ouais. Allez,
ça vous a un peu délaissé, en tout cas, il me semble, à l'entrée de la surface de réparation.
C'est une frappe, ouais. En fait, hein, qui arrive à l'entrée de la surface de réparation de Rodez. On va dire que ça ne vous a pas marqué. Et peut-être que d'un côté, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Ça veut donc dire que ce n'était pas si dangereux que ça. En tout cas, de votre point de vue et du point de vue du gardien. Mmh. Effectivement, un peu plus tard, vous allez vous illustrer avec notamment une sortie.
Ouais. Est-ce que l'idée de départ, en fait, c'était un peu de laisser venir Concarneau?
De leur laisser la balle, de leur laisser dans leur style de jeu, mais et nous aussi de rester dans notre style de jeu, qui est d'attaquer les espaces avec nos joueurs de devant, avec c'était Eric qui était devant, comme on savait qu'ils avaient pas des défenseurs centraux très rapides, sans manquer de respect, mais on avait plus de vitesse devant. Et notre objectif c'était de jouer notre jeu dans les espaces et puis de marcher avec la vitesse de Théric devant et puis d'attaquer l'espace, quoi.
Alors c'est vrai que Concarneau a peut-être un peu contrarié vos plans. Ils ont aligné un dispositif inhabituel. On les avait pas vus, en tout cas pas depuis plusieurs mois, alignés 3 milieux plutôt défensifs et 2 pointes en attaque, hein, on va dire. Ouais. Votre coach reconnaît que ça l'a surpris.
Oui, ça a été une surprise. On sait qu'il y a pas mal d'équipes qui s'adaptent à nous, qui essaient de nous contrer là-dessus. Donc, il faut prendre la patience et attendre, être plus patient, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Après, je pense quand même que même s'ils nous ont gênés par moment pour trouver la profondeur, trouver notre vitesse sur la largeur du terrain, c'était trop lent, quoi. Donc, ça, on doit travailler, faire beaucoup plus, puisque beaucoup d'équipes essayent de s'adapter.
Vous avez vu que ça déstabilisait, vous, un peu votre équipe depuis votre poste de gardien, ça, ce schéma tactique qu'on n'attendait pas?
Un petit peu, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit à la vidéo, mais Je pense que c'est surtout ce qui nous a déstabilisé, c'était un peu le fait qu'on manquait d'intensité, qu'on s'est pas mis dedans dès le début et que on n'a pas fait les efforts qu'on fait d'habitude, que ce soit qu'on a fait contre Auxerre et Paris FC. Mais je pense que c'est surtout nous, notre manque d'intensité qui nous a mis un peu moins dedans, plutôt que le fait que ce soit eux qui aient changé de dispositif, je pense.
Alors, on parlait du physique. On a dit que ça ne venait pas forcément que du physique. Est-ce que ça peut être justement lié au prestige de l'affiche? Jouer Auxerre et le Paris FC, c'est assez prestigieux. Deux équipes du top 5. Concarneau, ça allait un peu moins. Est-ce que ça peut rentrer en considération?
Ouais, ça peut jouer dans la tête de passer d'une belle affiche de Ligue 2 à jouer quelqu'un qui joue le maintien. Donc, forcément, c'est pas les mêmes enjeux en face. Parce que jouer le maintien, il le joue toujours, mais fallait qu'il gagne forcément. Et puis c'est plus les mêmes comportements en face, parce que c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas le même classement, donc peut-être que ça a joué dans les têtes, et c'était à nous de bien changer ça et pour atteindre la victoire.
19e Concarneau au moment où on se parle, avec 35 points au compteur. Qu'est-ce qu'un gardien peut faire justement pour aider son équipe quand on voit qu'elle est en difficulté? Et pour s'adapter, on parlait du changement de schéma de jeu proposé par Concarneau. Ça, on s'en aperçoit tout de suite quand on est gardien?
De derrière, oui. De derrière, je...
Et comment on fait pour aider son équipe? Est-ce que c'est via la parole? Est-ce qu'on dit rien? On laisse l'équipe s'adapter?
Moi, la plupart du temps, j'essaie de parler pour les mettre dedans, ou même les aider. Parce que en les aidant à parler, parce que moi je vois le déplacement de tout le monde de derrière, donc ouais. J'essaie de parler, de dire à mes défenseurs de les aider.
Et ça veut dire ajuster leur placement, dire vaut mieux que tu sois plutôt là, du coup.
Ou même quand il y a une course dans leur dos, par exemple.
Ouais.
Parce qu'ils voient forcément qui est devant, donc. Après là, il y avait moins de public, donc forcément ça.
On s'entend mieux.
Mais forcément, moi je vois de derrière, donc j'essaie qu'ils essaient de pas se faire prendre dans le dos, parce que avant moi il y a les défenseurs, donc si on peut arrêter l'action avant que ça arrive dans mes gants, on va l'essayer, mais surtout pour ça, quoi.
On rappelle que cette rencontre était au stade de Brest, au stade Francis Leblé, puisque Concarneau n'a pas de stade homologué pour jouer dans cette division-là.
Alors c'est un adversaire que vous avez quand même bien contenu, hein, globalement. Il y aura effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, une petite alerte sur le contre emmené par Rodriguez. Vous avez hésité à sortir. Est-ce que c'est la situation typique où un gardien est pris entre deux feux, en fait?
En fait, il fait une touche longue et j'hésite une première fois. Et après, je me réavance et je réhésite. Et c'est ça qui m'a mis un peu dans la merde, parce que... Parce que je me mets entre deux situations, parce que c'était soit je sortais ou soit je me replaçais, et là je me suis mis tout seul entre deux, et après heureusement qu'il loupe sa deuxième touche, parce que
elle est trop longue aussi.
Ouais, donc ça me permet de sortir et d'arrêter l'action, mais je pense que s'il fait une touche plus courte et qu'il arrive devant moi, je pense que je dirais pas que je suis mort, mais
c'est
plus dur pour moi, parce qu'il y a plus de distance.
Puis dans votre malheur, il y a quand même une part de bonheur. Vous êtes resté dans votre surface de réparation, ça vous permet d'intervenir avec vos mains au moment où il fait cette touche en trop longue.
Ouais, quand il fait la touche trop longue, je me suis dit
youpi.
Ça m'a sauvé, et je me suis dit je vais le croquer, je vais arriver de CP, je vais prendre la balle, quoi.
Ouais, parce qu'on voit vraiment, vous arrêtez limite avec la surface de réparation. Ça, on y fait attention quand on est gardien. On se dit, si je sors après, je peux plus jouer avec les mains, donc il va encore avoir plus de facilité pour me dépasser.
Quand j'ai fait la deuxième hésitation, j'ai pas forcément fait gaffe où j'étais. Et une fois que j'ai hésité et que je me suis rendu compte de là où j'étais, enfin, je savais où j'étais, mais.
À la surface.
Ouais, que j'ai vu que j'ai.
Tu vois qu'il y avait l'arc de cercle devant.
Je me suis dit, je vais m'arrêter là, parce que si je me retrouve entre deux et en plus
en dehors
de la surface, ça va être super dur pour moi. Et même si c'est pas une situation où je voulais être à la base, mais après.
Bon, derrière, il joue plutôt mal le coup, heureusement, puisqu'il y a cette fameuse touche en trop longue.
Ouais.
Et ça vous permet en tout cas de bien jaillir dans ses pieds.
C'est le cauchemar du gardien, ça, la sortie mal proportionnée. On en rêve la nuit, des fois, de prendre des buts comme ça, ou alors des lobes, je sais pas.
Lobes, ça m'est déjà arrivé. Mais
pourtant, vous êtes grand.
Pourtant, 2 mètres, 1,99 de mètres.
2 mètres pile.
2 mètres pile.
2 mètres. Mais la situation, c'est. pense que ça vient avec l'expérience aussi, parce que je pense que cette situation, elle arrive même prochain match. J'espère pas me porter l'œil en disant ça, mais je pense que je l'ai vécu cette situation, donc la prochaine fois, je sais que j'aurais pas hésité ni une fois ni deux fois, mais j'irai tout de suite.
Ça permet d'engranger de l'expérience, effectivement. Mmh. On y reviendra d'ailleurs. Hein. Mmh. Sur le plan offensif, en tout cas, pour reparler de Rodez, puisqu'on a beaucoup parlé des occasions concédées, c'est vrai qu'il a fallu attendre la demi-heure, hein, pour voir la première grosse occasion de Rodez. Beau mouvement de Giovanni Hag et un centre au deuxième poteau où malheureusement Bradley Danger n'a pu proposer que son dos. C'est vrai que c'est pas très pratique. Hein,
pour marquer.
Ouais. Grosse occasion aussi avec cette frappe d'Hakim Abdallah à la 35e au-dessus. Mmh. Vous l'avez vu, vous, de votre but, vous êtes dit, mais cadre petit.
Mais là-dedans, merde.
Non, mais après, moi je suis pas attaquant, je veux pas leur dire comment frapper, mais...
Ouais, on s'est dit que c'était quand même une grosse occasion. Ouais. En tout cas, clairement, Rodez est monté en puissance doucement, mais sûrement, dans ce match, à partir de cette demi-heure de jeu. On a commencé à retrouver le Rodez tout en maîtrise qu'on voit ces derniers temps. Pendant la première demi-heure, c'est vrai qu'on a vu pas mal de centres qui ne trouvaient pas preneur au deuxième poteau. Est-ce que c'est parce qu'il fallait pas les envoyer là, les ballons, ou est-ce que c'est parce que il manquait quelqu'un qui aurait dû être là? Alors vous êtes pas attaquant, mais vous êtes peut-être au courant.
Je pense qu'il manquait quelqu'un. Mmh. Après moi c'est pas mon job de finir dans la surface, mais non, je pense que après le centreur la met dans les zones qu'il faut.
Ouais. Après, oui, il manque quelqu'un.
Peut-être qu'il manque quelqu'un, après, je veux pas, avec tout le respect que j'ai pour mes attaquants.
On n'est pas là pour incriminer, mais on est là pour dire que je trouve qu'il y a quelqu'un dans cette zone-là, quoi.
Ouais, je pense.
Ouais, ok. On va repartir, en tout cas, sur ces mêmes bases après la pause. Quelle frappe de Younoussa, d'ailleurs. Ouais, et une belle envolée du gardien de Concarneau, quoi.
Franchement, je l'ai vu dedans. De là où j'étais, je l'ai vu. Elle était pile en face de moi, j'ai cru qu'elle allait partir dedans.
La frappe était magnifique, ouais. L'arrêt aussi, ouais. Également. Grosse occasion de Arconte aussi à la 52e dans le petit filet. On a l'impression dans ce match que finalement, la fatigue, ou en tout cas, il y a eu de la prudence d'abord, et puis finalement, il y a eu des espaces qui se sont libérés quand même. Hein.
Ouais, je pense que le fait qu'on ait recommencé à faire des courses pour la défense de Concarneau, ça les a fatigués un peu. Mmh. Et du coup, ça a ouvert. Et puis surtout que eux, c'était 0-0 toujours, donc fallait qu'ils attaquent un petit peu plus. Et donc, nous, ça nous a ouvert des espaces et on a pu les exploiter.
Mmh. Et Wenjawen, notre invité, le portier de Rodez dans ce club Saint-Heur. Et justement, on parlait de la fatigue. À ce petit jus-là, on a senti qu'il manquait quelque chose à Concarneau. Est-ce que vous les avez sentis baisser de rythme, vous aussi, sur le terrain?
Pas forcément. Moi, j'ai pas. Après, de l'extérieur, c'est peut-être différent, mais moi, j'ai pas forcément. De là où je suis, j'ai pas.
On les sentait moins tranchants, ouais, moins arrivés en nombre, par exemple, devant votre surface de réparation.
Ouais.
Moins d'efforts offensifs, peut-être qu'on favorisait plus les efforts défensifs qu'offensifs.
Ouais, il y avait moins de pression, je trouvais, sur mon but. Mais, mais après, franchement, les efforts que eux pouvaient fournir, c'est plus dur à voir, je trouve, de mon poste. Mmh. Mais après, je pense forcément qu'il y avait de la fatigue.
Parce qu'en fait, on est sur le même point de vue, donc forcément, on va peut-être moins les courses effectuées par les milieux de terrain ou les défenseurs adverses pour apporter ce fameux surnom. Mmh. C'est aussi possible.
Mais c'est vrai que ça a manqué un peu de poids offensif, hein, ouais. de leur part.
Ouais.
Chez vous, Willy T va finir par être récompensé, hein, avec une nouvelle très belle frappe, cette fois au fond des filets. Et d'ailleurs, c'est un but qu'il a raconté au micro du club.
J'ai senti en fait le truc. Il y avait de l'espace dans la surface et Ako, il avait la balle. Et j'ai senti. Moi, je ne croyais pas que ça venait au pied, mais je pensais que ça allait venir plutôt sur la tête. Mais c'est plutôt le pied. Et c'est encore un plus parce que moi je suis pas fort de la tête. Donc j'ai senti le truc et il a mis au bon moment. Et au moment à un endroit parfait.
Willy T, qui est un petit peu moins grand que vous, c'est vrai.
Mais un petit peu.
Mais qui peut marquer de la tête après tout. Hein.
Ouais.
Et bravo à lui quand même, hein, au niveau des stats, il va être passeur décisif également sur le deuxième but. On parlait d'espace. Et moins de 10 minutes plus tard, Kylian Corredor va en profiter pour partir à la limite du hors-jeu. C'était finement joué de la part de Willity et de sa part pour aller ensuite tromper le gardien tout seul en face à face. C'est une belle récompense pour celui qui ne cède pas sa place au coup d'envoi. Il y a eu un peu de turnover classique sur ce troisième match en 8 jours. Didier Santini en a parlé tout à l'heure. Rajo, Silla, Outonji, ils ont été ménagés, mais il y en a d'autres qui ont enchaîné, comme Hag, Danger et Corredor, donc des solides gaillards, puisqu'en plus ils ont plutôt assuré. Hein. Les durs au mal ont assuré samedi. Vous aussi, vous avez enchaîné, bien sûr, mais c'est un peu plus normal. Rodez qui va avoir de multiples situations de 3-0, mais qui n'inscrira plus de but, et il va même y avoir ce but concarnois au moment où on ne l'attendait presque plus. On parlait de cauchemar tout à l'heure. Alors c'est un but accidentel, il est presque anecdotique à ce moment-là du match, mais on a quand même senti une pointe d'agacement dans les réactions après, et notamment de votre part.
Ça fait tâche parce que ça aurait été bien. Après le but, j'ai direct pensé à... c'était les dernières secondes du match, en plus, au coup d'envoi... Quand ils refont le coup d'envoi, ils suivent direct la fin du match.
Donc, on n'est pas passé loin. Hein.
Donc après, je vois certains, ils célèbrent et tout ça, mais moi, j'étais dégoûté parce que...
On vous a vu presque partir directement au vestiaire, c'est ça?
Non. Ah. Après, je suis allé voir mes potes et tout ça, qui étaient en tribune. Mais moi, j'étais dégoûté à la fin. J'étais content de la victoire, mais dégoûté parce que ça aurait pu faire 3 matchs, 3 clean sheets.
C'était un objectif?
Ouais.
Interne, peut-être?
Interne, okay. Parce que... Je me suis dit c'est l'occasion, et puis de toute façon à chaque match l'objectif c'est pas prendre 2 buts. Donc si je peux enchaîner 3 matchs sans clean sheet, mais j'étais à la fin quand je suis allé chercher le banc dans les filets, j'étais dégoûté.
Accident total,
pourtant,
on est d'accord.
Et pourtant voilà, on rappelle, il y avait 2-1 pour Rodez, il y avait rien de perdu à ce moment-là de la partie, mais voilà, il y avait ce mauvais le coup du sort, non?
Et on finit là-dessus, ça vient un petit peu, petit truc rabat-joie, quoi.
Après, il se passe plus rien, ça finit le match là-dessus, donc.
Ouais. Accident total, on est d'accord?
Je pense. J'espère.
Comment l'anticiper? C'était impossible à deviner, ça.
Non, moi, je pensais qu'il allait centrer, je pense que lui aussi pensait qu'il allait centrer.
Jallet, on disait tout à l'heure.
Christophe Jallet, il avait marqué un but, alors pas tout à fait similaire, mais un but un peu chanceux, on va dire, avec l'équipe de France. Bon, il n'a pas célébré de la même manière.
Non.
C'est ce qu'on a dit également à ce joueur de Concarneau. Allez-y, Jean-Charles, je vous laisse finir.
Non, c'est vrai que, au-delà de votre cas personnel, on a senti dans les réactions après que c'était un objectif collectif, ces clean sheets, et que ça avait forcément déçu aussi des joueurs de champ.
Ouais.
Ewen Jawen, qui est notre invité dans ce club sans et or, termine la première partie, puisqu'avec Jean-Charles et Ewen, on a eu pas mal de sujets de discussion.
On voit pas le temps passer.
Avec cette rencontre face à Concarneau, on va se projeter sur la prochaine rencontre face à Annecy. On va revenir également sur votre parcours, Ewen, dans une deuxième partie, disponible tout simplement en podcast sur notre site à radiototem.fr. Nous, on continue la discussion avec Jean-Charles et avec Ewen en studio.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu, et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord. Et on vote quand?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries.
that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Tells me I'm wrong, but you I never can tell. The way you drag me along, the way I put you through hell. But tell me, am I insane? Is this where we belong? Is it pleasure or pain that we're still hanging on? Going out of my head. You know true love is dead, but what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you. Walk through your
L'info média du jour avec Thierry Moreau.
On se demandait il y a quelques semaines avec Thierry Moreau, mais qui pourrait bien remplacer Jarry après justement un petit tour et puis s'en va, hein, dans le jeu tout le monde veut prendre sa place. Et ils ont eu la bonne idée, à mon sens, hein, de confier les rênes de ce jeu à Cyril Ferraud, qui du coup quitte Slam, mais qui du coup aussi va se retrouver quotidiennement, Thierry Moreau, le midi sur la 2, l'après-midi sur la 3, et en plus qui pilote 6 prime time, en plus de son apparition cet été dans Fort Boyard. Est-ce que la télé manque cruellement de nouvelles têtes pour tout donner à un seul homme, j'ai presque envie de dire?
Alors, ce qui est un peu sous-jacent à votre question, c'est de dire, est-ce qu'il en fait trop? À mon avis, non, pour une raison très simple, c'est que dans chacune des parties que vous avez décrites, que ce soit les Jeux du Midi sur France 2, les Jeux de l'après-midi sur France 3 et les Primes, ça n'est pas un public équivalent. C'est même un public très différent. La deuxième chose, c'est que pour reprendre un Jeu du Midi, vu la concurrence qu'il y a, notamment avec Jean-Luc Reichmann, il faut quelqu'un de solide, il faut quelqu'un de fort. La troisième chose, c'est que Cyril, le jeu, c'est son ADN. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, c'est là qu'il est le meilleur. Il a une capacité de travail, une connaissance des candidats, puisqu'il travaille sur fiche très longtemps avant l'émission. Il connaît le parcours, le profil de chacun des candidats. Et donc, il joue l'empathie à chaque fois. Et c'est un gentil, ce qui est très rare dans ce métier. Donc, il est parfait pour le casting. Et puis, la dernière chose, et c'est vrai que vous avez un petit peu raison, la télé a toujours du mal à investir sur des nouveaux talents. Moi, si j'étais France Télévisions, France 2, j'aurais pas mis un nouveau talent sur Tout le monde veut prendre sa place. J'aurais mis effectivement Cyril Ferraud. Après, sur Slam, on pourrait tout à fait envisager un nouveau casting, un casting étonnant, un duo, parce que je crois que c'est ce qu'a suggéré Cyril Ferraud à la direction de France Télévisions, pourquoi pas. En tout cas, là, on peut tester sur Slam des gens qui sont, je dirais, relativement novices. En revanche, sur Tout le monde veut prendre sa place, il faut un cador. Et des cadors, il n'y en a pas 50 000. En l'occurrence, Cyril Ferraud en est un. Et c'est pour ça qu'il récupère cette case.
Eh bien, on va voir ça, mais je suis sûr que ça va cartonner. Ah et que même sûr. TF1 va avoir chaud aux fesses. Hein. C'est un sacré concurrent pour Jean-Luc Reichmann.
Absolument.
Merci beaucoup Thierry, à demain.
À demain.
wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone, so I hold them in my hands. Pictures of you, dream of the day you were eating for two.
Écoutez Totem.
Totem ?
Totem.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai ? Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa ! Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?
serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Ton papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer. N'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. On était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness, through an empty open door. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, we'll go into the black. What are we fighting for? What are we fighting for? I was supposed to protect you, no matter what's to come. Somehow forgot when they told.
viendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses. Se pose sur nos ronces lilas.